On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Cheveux afro, cheveux magiques. Un texte de Camille Lopez, paru le 3 novembre 2025 dans les as de l'info. Selon la réalisatrice Habibata Warm, les cheveux afro, ce sont des couronnes à porter fièrement. Ces cheveux frisés, ils permettent aux filles et aux femmes noires de s'affirmer, de s'amuser et de montrer leur identité à tout le monde. C'est le sujet de son documentaire « Mille et une couronnes pour ma tête ». Quelle est l'histoire des coiffures sophistiquées des femmes noires? Comment apprend-on, à l'autre bout du monde, à se coiffer? J'ai eu la chance de parler à Habibata. Salut Habibata. Je viens de terminer le film, j'ai beaucoup appris. Pourquoi avoir choisi ce sujet? C'est venu de mon lien avec mes cheveux. En 2010, j'ai décidé de garder mes cheveux au naturel sans les défriser. Je me suis rendu compte que je faisais toujours les mêmes coiffures. Alors, j'ai cherché des idées sur Internet. Dans ma recherche, je suis tombé sur des coiffures architecturales avec des formes spectaculaires. J'ai aussi appris qu'à un moment donné dans l'histoire, des savoirs et des techniques ont été perdus, oubliés. Et je me suis demandé pourquoi. Avez-vous trouvé la réponse? Oui. Ça m'a amené à différentes époques. En Afrique avant, on prenait le temps de se coiffer. Ça pouvait prendre des heures. Les gens en profitaient pour partager, échanger. Mais quand il y a eu l'esclavage et le travail forcé, ces coiffures se sont malheureusement perdues parce que les gens n'avaient plus le droit de prendre le temps de se coiffer. Pour filmer son documentaire, Habibata a visité trois pays. Le Canada, Montréal et Toronto, la Martinique, située dans les Antilles, et la Côte d'Ivoire en Afrique. Mes cheveux peuvent tout faire. Je peux leur donner une forme impressionnante, les lisser, les porter en afro. Je peux même les utiliser pour me protéger du soleil. Et ce qui est magique, c'est de découvrir à quel point ils sont spéciaux, c'est de connecter avec mes cheveux. Quelle est votre coiffure préférée? Ça dépend. En hiver, je vais opter pour des tresses et des rallonges parce que je peux mettre une tuque. Et l'été, j'adore les laisser en afro. Dans votre film, plusieurs femmes disent qu'aimer leurs cheveux leur a pris du temps parce qu'elles ont vécu des moqueries. Qu'est-ce que vous diriez aux enfants à qui ça arrive? Si, à l'école, quelqu'un se moque de toi, il faut en parler à tes parents et à ton enseignant ou ton enseignante. Tes cheveux font partie de toi. Ils servent à t'identifier. Explore et essaye des coiffures et après, partage-les avec tes amis. Ça leur permettra d'apprendre et ça crée un meilleur vivre ensemble. Et au-delà de tout, aime-toi et n'écoute pas les choses négatives. Est-ce que le film a changé votre rapport avec vos cheveux? Absolument. Maintenant, je suis fier de porter des coiffures, pas forcément pour plaire aux gens, mais pour me plaire à moi-même. Tu peux écouter le documentaire « Mille et une couronnes pour ma tête » dès maintenant sur le site ou la chaîne YouTube de TFO. Et toi, qu'est-ce qui t'aide à avoir plus confiance en toi? Élection municipale. Voici les résultats chez les As, un texte de l'équipe des As, paru le 3 novembre 2025 dans les As de l'info. Dimanche, c'était jour d'élections municipales partout au Québec. Alors, qui sont les nouveaux maires et mairesses? Le Québec compte plus de 1100 municipalités. On ne peut pas donner tous les résultats, alors chaque membre de l'équipe des As te présente qui a gagné dans sa ville. Allons-y. Montréal. Marie-Lise. Moi, j'habite dans la grande métropole. Depuis 8 ans, Valérie Plante était la mairesse de Montréal. C'était la première femme à occuper ce poste. Mais en octobre 2024, elle a annoncé qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. Dimanche, une nouvelle femme a été élue avec plus de 40% des votes. Soraya Martinez-Ferrada, la chef du parti Ensemble Montréal. D'origine chilienne, elle est arrivée au Québec avec sa famille quand elle était enfant. C'est la première personne immigrante à être élue à la mairie de Montréal. Parmi ses priorités, réduire l'itinérance et la crise du logement, améliorer le transport, la sécurité et la propreté de la ville. Laval, Caroline. Pas de changement dans ma ville. Stéphane Boyer, qui est maire depuis 2021, a gagné ses élections dimanche. Le jeune élu de 37 ans a récolté 58% des votes. Laval est la troisième plus grande ville du Québec, avec 460 000 habitants. Dans son discours de victoire, le maire Boyer a dit qu'il ne trouvait pas normal qu'une si grande ville n'ait qu'un seul hôpital et un seul refuge pour personnes itinérantes. Longueuil, Marie. À Longueuil, la soirée électorale a duré moins de 10 minutes. Eh oui. Tout de suite après la fermeture des bureaux de vote, la victoire de Catherine Fournier a été annoncée. Cette jeune mairesse dirigeait déjà la ville depuis 4 ans. Tu te demandes comment il se fait que ça a été aussi rapide? Ça arrive quand un candidat a une très nette avance sur son adversaire. On calcule alors qu'il est mathématiquement impossible que son opposant remonte dans les votes. Dans le cas de Catherine Fournier, elle a obtenu presque 90% des votes. C'est vraiment rare. Ses citoyens sont visiblement très heureux de son travail. Catherine Fournier est reconnue pour être une mairesse dynamique, à l'écoute et créative. Elle obtient donc 4 ans de plus pour gérer Longueuil, mais cette fois-ci, ce sera avec un bébé. Oui, oui, la mairesse va devenir mère. Shawinigan, Eve. Dans ma ville à Shawinigan, un nouveau maire a été élu, Yves Lévesque. Nouveau? En fait, M. Lévesque a déjà été maire de Trois-Rivières, une autre ville de la région. C'est assez inusité qu'un ancien maire d'une ville devienne maire d'une autre municipalité. Il s'était également présenté 3 fois à des élections fédérales sans être élu. On peut dire que notre nouveau maire aime la politique. Il a promis de redonner de la vitalité à Shawinigan. Les citoyens ont beaucoup d'espoir. Dans ma région, la Mauricie, une chose rare avait aussi lieu dans certains villages dimanche. Un référendum. Les électeurs de Saint-Luc-de-Vincennes, de Saint-Tite et de Sainte-Thècle avaient un bulletin de vote supplémentaire à remplir. Ils devaient dire s'ils étaient pour ou contre l'implantation d'éoliennes d'une compagnie privée sur le territoire de leur municipalité. Les 3 villages ont voté contre. Saint-Charles-Borromée, MRC de Joliette, Mylène. Quand j'observe les résultats de la MRC de Joliette, je remarque que l'expression « par acclamation » revient souvent. Dans ma ville, Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel est le nouveau maire. On le sait depuis le 6 octobre parce que personne d'autre n'a levé la main pour diriger la mairie. Il a donc été élu par acclamation. Comme on t'expliquait, cette élection peut être une course féroce. Par exemple, à Montréal, 9 partis s'affrontent et à Québec, 123 personnes se disputent les 21 districts. Il y a une campagne électorale, des affiches sont posées dans les rues, des débats entre candidats sont organisés, tout ça pour inciter les gens à aller voter. Mais ce n'est pas le cas partout. Dans plusieurs municipalités, il arrive souvent qu'une seule personne pose sa candidature. Ça arrive surtout dans de petites villes ou des villages, et parce que ce type d'élection n'est pas très populaire. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? On ne peut pas vraiment organiser un vote avec une seule personne sur le bulletin de vote, alors cette personne est automatiquement élue. On appelle ça être élu par acclamation ou sans opposition. Ce qui est surprenant, c'est que tout le conseil municipal a aussi été élu par acclamation. Et que le maire, comme ses 6 conseillers municipaux, sont tous nouveaux. D'habitude, quand un maire ou une mairesse en poste, depuis des années, est battu, on dit qu'un vent de changement souffle sur la ville. Mais quand toute l'équipe est nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Une tornade de renouveau? Gaspé, Camille. Chez moi, à Gaspé, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Comme chez Mylène, le maire, Daniel Côté a été élu par acclamation. On savait donc depuis octobre qu'il était réélu. C'est son 4e mandat et c'est la 2e fois que personne ne se présente contre lui. Mais j'ai quand même dû aller voter. Parce qu'en plus d'élire un maire ou une mairesse, les citoyens ont le devoir de choisir qui sera leur conseiller municipal. Alors, direction la Marina de Gaspé pour enregistrer mon vote. Sur place, j'ai pu parler aux employés des élections qui m'ont dit qu'ils étaient très contents de voir que des gens de tous les âges étaient passés. Voici d'autres résultats. À Québec, le maire Bruno Marchand a été réélu à la tête de la 2e plus grande ville de la province, avec presque 50% des votes. À Gatineau, la mairesse Maude Marquis-Bissonnette reste aussi en poste, mais le vote a été serré. Elle a obtenu 51% des votes et son adversaire, Mario Aubé, 47%. À Sherbrooke, Marie-Claude Bibeau est la nouvelle mairesse. Deux choses étonnantes sur elle. La première, elle a fait campagne en tant que candidate indépendante, c'est-à-dire qu'elle s'est présentée seule, sans parti. La deuxième, son conjoint a déjà été maire de Sherbrooke. À Lévis, Stephen Blaney, un ancien ministre conservateur, devient maire avec 43,5% des votes. Il prend la place de Gilles Lehuillier, qui était en poste depuis 12 ans et qui a décidé de ne pas se représenter. À Saguenay, le résultat a été très serré. Luc Boivin a été élu avec 28 775 votes. Son adversaire, l'ancienne ministre de la CAQ, André Laforêt, a eu 28 543 votes. C'est une différence de seulement 232 votes. D'ailleurs, Mme Laforêt demande qu'on recompte les bulletins de vote. Pour l'instant, elle ne reconnaît pas la victoire de Luc Boivin. As-tu accompagné tes parents au bureau de vote hier? Est-ce que c'était long? Parle-nous de ton expérience. Peut-on sauver une baleine échouée? Un texte de Clémence Tessier du Réseau Presse, paru le 4 novembre 2025 dans les As de l'Info. Au cours des dernières semaines, deux événements tristes ont touché les côtes canadiennes. En Gaspésie, une immense baleine, un rorqual commun, a été retrouvée morte sur une plage. Et un peu plus à l'est, à l'île du Prince-Édouard, 3 jeunes cachalots se sont aussi échoués. Malheureusement, aucun n'a survécu. On ne connaît pas la cause de ces incidents. Je t'explique ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire lorsqu'on est témoin d'une telle situation. Des géants marins en détresse. Leur orcale commun, échoué en Gaspésie, mesurait près de 20 mètres et pesait environ 40 tonnes. Imagine, c'est aussi long que deux autobus scolaires. Les scientifiques connaissaient bien ce rorcale, puisqu'il avait été observé plusieurs fois dans le fleuve Saint-Laurent depuis les années 90. Quelques jours plus tard, trois cachalots se sont retrouvés coincés dans des eaux peu profondes à East Bedford, à l'île du Prince-Édouard. Malheureusement, les secours sont arrivés trop tard pour les sauver. Aurait-on pu les sauver? Dans les deux situations, ce sont des citoyens qui ont alerté les autorités. Plusieurs habitants étaient bouleversés devant les trois cachalots à l'île du Prince-Édouard. Ils trouvaient que les secours mettaient trop de temps à arriver et voulaient aider les baleines eux-mêmes. Sur les réseaux sociaux, les photos et les messages de tristesse et de frustration se sont multipliés. Mais déplacer un aussi gros animal, ce n'est pas simple, même avec de la bonne volonté. Une opération très complexe. Lorsqu'une baleine ou un autre gros mammifère marin s'échoue, il ne faut jamais tenter de l'aider soi-même, bien qu'on ait envie de lui venir en aide. Pourquoi? Parce que ces animaux sont immenses, mais fragiles. Les tirer vers l'eau, les arroser ou les pousser peut leur causer des blessures graves et même les tuer. En plus, les toucher peut leur transmettre des maladies. Et à l'inverse, ils peuvent être porteurs de bactéries dangereuses pour les humains. Alors, que faire si tu vois un animal échouer? La meilleure chose à faire, c'est de garder tes distances et d'appeler rapidement les secours. Au Canada, des organismes comme Baleine en direct ou Marine Animal Response Society s'occupent de ces situations. Certains offrent même une formation pour apprendre aux gens comment soutenir les experts pendant une opération de sauvetage. De cette façon, tout le monde reste en sécurité, y compris l'animal. Dernièrement, une baleine à bosse s'est échouée sur une plage du Brésil. Heureusement, elle fut sauvée. Tout est bien qui finit bien pour notre amie marine. Et toi, as-tu déjà vu un animal marin de près? Lequel? Quelle nouvelle veux-tu qu'on vérifie? Un texte de Camille Lopez, paru le 4 novembre 2025 dans les As de l'Info. C'est à nouveau le moment de te poser mes questions préférées. As-tu entendu une drôle d'histoire à l'école? Une nouvelle farfelue qui te tracasse? Tu as vu passer une info louche? Rends-toi dans la section commentaires pour me demander de la vérifier. Mon travail, c'est de démentir la désinformation, mais je ne peux pas tout voir et tout entendre. Et il y a beaucoup de fausses informations sur Internet, mais aussi dans les rumeurs qui circulent à l'école. Par le passé, des commentaires des As m'ont permis de vérifier que... La semaine dernière, beaucoup de lecteurs des As m'ont demandé si l'émission Les Simpsons avait prédit que Donald Trump allait mourir en 2025. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours vivant. Vérification faite, je peux t'affirmer avec 100% de certitude que c'est totalement faux. Mais tu sais quoi? Cette rumeur ne me surprend pas du tout. Je t'explique. La rumeur provient surtout de deux vidéos qui circulent en boucle sur TikTok, X, YouTube et Instagram. On y voit deux versions différentes de la même scène. Donald Trump, version Simpson, dans un cercueil, accompagné d'une plaque où il est écrit « 12 avril 2025 ». La rumeur. Des internautes affirment que ces extraits montrant Donald Trump mort proviennent d'un épisode des Simpsons. Ils disent aussi que l'émission a prédit l'avenir à de nombreuses reprises. De fausses images. J'ai donc vérifié pour nos as cette nouvelle un peu bizarre. Mon verdict? Faux. Voici pourquoi. Premièrement, les images ont probablement été créées par une intelligence artificielle. On lui a simplement demandé de dessiner Trump, version Simpson. Sans être un pro de l'intelligence artificielle, on peut rapidement voir qu'il s'agit de fausses scènes. Comment? En comparant avec les épisodes des Simpsons où le personnage de Donald Trump apparaît véritablement. Deuxièmement, Donald Trump n'apparaît que dans quelques épisodes des Simpsons. J'ai épluché les scénarios de ceux-ci et, à date, il n'a jamais été représenté dans un cercueil. Camille 1, rumeur 0. Une vieille fausse nouvelle. Plusieurs personnes pensent que l'émission a déjà prédit l'avenir. Et c'est vrai qu'à quelques reprises, il y a eu de drôles de coïncidences. Par exemple, dans un épisode diffusé en l'an 2000, le personnage de Lisa est la présidente des États-Unis et elle mentionne que le président avant elle était Donald Trump. 16 ans avant son élection dans la vraie vie. Est-ce que ça veut dire que le créateur des Simpsons est devin? Non. L'émission s'est toujours inspirée de l'actualité et aime intégrer des personnes réelles à ses histoires. Et en l'an 2000, Trump était déjà très célèbre. C'était un homme d'affaires connu. Il est donc très normal qu'on trouve dans l'émission des ressemblances avec la vraie vie. Cette drôle de croyance a créé un monstre. Cette idée qu'on peut prédire l'avenir en regardant les Simpsons est devenue un mème. Depuis l'élection de Donald Trump, plusieurs personnes créent de fausses prédictions pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Tout y passe. Catastrophes naturelles, politiques, etc. Alors, quand tu entends que les Simpsons ont prédit quelque chose, tu peux très rapidement affirmer que c'est faux. Dossier clos. Quelle autre nouvelle aimerais-tu que je vérifie? Une ville sous les pyramides d'Égypte? Pas si vite. C'est l'heure de vérifier une autre rumeur louche. Récemment, des chercheurs ont déclaré avoir découvert une ville souterraine sous la pyramide de Khéphren en Égypte. Ça a fait le tour de l'Internet et de certains médias. Quelques as m'ont demandé si c'était vrai. Ce serait cool, non? Mais des experts très sérieux affirment que la trouvaille est fausse. Et c'est l'exemple parfait pour te montrer à quoi ressemble une nouvelle scientifique trompeuse. Voici pourquoi. La déclaration. En mars, des chercheurs italiens on dit avoir découvert 8 énormes piliers sous la pyramide de Khéphren. Selon eux, il s'agirait de passages qui s'enfoncent à plus de 600 mètres sous le sol. Et ils mèneraient à une ville souterraine. La technique utilisée par l'équipe pour tenter de trouver ce qui est caché sous le sable. Un radar qui reproduit ensuite les images en 3D sur un ordinateur. La nouvelle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, par exemple, les vidéos sur la trouvaille ont été vues des millions de fois. Même chose sur TikTok. Les faits et la réalité. Il y a trois grandes questions que tu peux te poser quand tu entends parler d'une grande découverte scientifique. Elles te permettront de savoir rapidement si tu peux t'y fier. Qui a fait cette découverte? Cette personne ou cette équipe est-elle qualifiée? Devine quoi? Les trois chercheurs à l'origine de cette nouvelle ne sont pas des spécialistes de l'Égypte ancienne, même que deux d'entre eux, Corrado Malanga et Armando Mei, ont fait la promotion de théories du complot farfelues. Monsieur Malanga, par exemple, étudie les enlèvements d'extraterrestres. Ce n'est pas sérieux. Où est-ce que cette découverte a été annoncée? Lorsque des scientifiques font une grande découverte, ils rédigent une étude sur le sujet. On y retrouve tous les détails sur leur méthode de travail et les étapes qu'ils ont franchies. Ensuite, d'autres scientifiques la lisent et tentent de trouver des erreurs. Si ce processus n'a pas été respecté, il faut se méfier. La nouvelle des 8 piliers n'a pas été publiée dans une revue sérieuse. On ne sait pas précisément comment les chercheurs ont procédé. D'autres scientifiques n'ont pas pu vérifier leurs affirmations avant que la découverte soit annoncée au monde entier. Qu'est-ce que les autres scientifiques en pensent? Plusieurs médias ont interrogé des scientifiques qui étudient l'Égypte ou qui se servent du même type de radar que l'équipe italienne. Ils leur ont demandé si c'était crédible. Dans toutes les entrevues que j'ai lues sur le sujet, sur les sites de Radio-Canada, 20 minutes, TF1 Info et AFP Factuel, les vrais de vrais experts disent qu'aucune preuve scientifique n'appuie la nouvelle. En fait, des images radar, ce n'est pas très précis, et ça ne peut pas détecter des images aussi profondément dans le sol. Leur trouvaille serait donc impossible à détecter avec la technologie qu'ils prétendent avoir utilisée. Oups! Verdict! Non, ces chercheurs n'ont pas trouvé 8 immenses piliers et une ville souterraine sous une pyramide en Égypte. Merci aux As qui m'ont proposé ce sujet. Alors, à toi de jouer. On se revoit dans un prochain article.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.